Le Musée des beaux-arts de Montréal a le mérite non seulement de présenter une exposition d'intérêt, mais aussi d'avoir surmonté nombre d'obstacles à sa réalisation en temps de pandémie, de période de déconfinement. Le Musée des beaux-arts de Montréal présente une première exposition consacrée au néo-impressionnisme, une première exposition d'importance en sol canadien. Et au cœur de l'exposition, bien sûr, Paul Signac et ses proches collaborateurs, cofondateurs du Salon des indépendants en 1884, hein, qui existe encore et qui met de l'avant un idéal social. Et je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec la commissaire de cette exposition.
Mary Daly Desmarais.
Bienvenue, bienvenue. Merci de participer à cet entretien. Entouré d'œuvres qui suscitent le ravissement. Merci. Alors, peut-être nous exprimer dans un premier temps, qu'est-ce que souhaitait exprimer ce ralliement d'artistes à travers les œuvres présentées au premier salon indépendant en 1884? On va remonter un peu dans le temps.
Bon, d'abord, je vous dis un grand merci d'être venu aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous voir. Ça fait du bien d'avoir des personnes dans les salles, finalement. Je dirais que pour Signac, Signac et ses contemporains, ou je dirais les cofondateurs du Salon des indépendants, il avait pour mission de créer un environnement d'exposition sans jury et sans récompense. C'était vraiment un mouvement démocratique en art et il y avait aussi un aspect engagé au niveau social qui était très très fort. Signac, même si on le voit pas tout de suite à premier regard dans tous ces paysages lumineux, pour lui il y avait vraiment une vision d'harmonie sociale qu'il voulait promouvoir dans son art. Il a beaucoup lu des théories anarcho-communiste. Maintenant, quand on pense au anarchisme, on pense plutôt à une version violente. Mais pour Signac, c'était vraiment une vision d'harmonie sociale qu'il voyait dans son art. Il pensait qu'il y avait que les artistes pourraient jouer un rôle très important dans la société.
Surtout lendemain, au sortir d'une guerre franco-prussienne qui avait beaucoup affecté les sociétés.
Oui, c'est vrai, absolument. Et donc, lui, il voit un équivalent entre les théories des théories scientifiques duquel il s'est inspiré, les théories, par exemple, optiques de Ogden Rude, Eugène Chevreuil, ou qui disait que deux couleurs qui sont différentes mais complémentaires pourraient ensemble créer une troisième couleur, une autre vibration dont l'esprit des visiteurs ou des personnes qui voient, des spectateurs, je dirais, lui, il voyait une équivalente dans les théories sociales qu'il lisait, c'est-à-dire que deux individus, quand ils sont en égalité, quand ils collaborent, pourraient contribuer au bien commun. Donc, pour lui, il y avait vraiment un lien entre le contenu et la forme de son art.
Il y avait particulièrement un intérêt à développer une approche de la couleur divisionniste pour un petit peu susciter une quête spirituelle. Hein?
Oui, c'est ça. C'était une quête spirituelle et scientifique.
Une approche humaniste.
Humaniste, exactement. Oui. Il n'était pas comme les symbolistes qui voyaient...
Axé beaucoup sur l'esthétique, par exemple.
Oui, c'était... Il ne voulait pas que son art soit détaché de la réalité sociale qu'il vivait.
C'était résolument des artistes engagés.
Oui, absolument, oui. Absolument. Mais c'est vrai que pour lui, c'était le but, le fil conducteur de sa carrière, de sa vie artistique, était de créer un mouvement à travers l'art. C'est pour cette raison que ses contemporains, ses pairs, lui appelaient l'âme du Salon des indépendants. Il a beaucoup écrit, il était vraiment...
Mais oui, il ne faut pas oublier qu'il était aussi non seulement artiste, mais aussi critique d'art.
Oui, oui. Il a écrit un livre, en fait, en Bénin, une édition de son livre de Eugène Delacroix au néo-impressionnisme qui explique les racines du mouvement néo-impressionniste. Il était vraiment le porte-parole pour le mouvement et très important pour sa génération. Et il est resté associé au Salon des Indépendants jusqu'à sa mort.
Écoutez, j'étais touchée de voir que le salon en est venu à fêter son 50e anniversaire et existe encore.
Oui, c'est incroyable! Ça existe encore. Nous, on traite la période entre 1884, le début du Salon des Indépendants, et la Première Guerre mondiale, qui était vraiment la période la plus importante du Salon des Indépendants. Cela dit, après la Première Guerre mondiale, le salon a réouvert ses portes et ça continue.
Il était obligatoire de fermer le salon durant la guerre.
Oui, et en fait, il y a une lettre très émouvante de Signac où elle critique Louis Vaucelle, disant qu'on ne réouvre pas jusqu'au temps que tous nos camarades peuvent nous joindre au Salon des Indépendants. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il avait des amis qui étaient et artistes et soldats, et il ne voulait pas continuer sans eux. Mais après la guerre, le salon a réouvert et c'est vrai que ce qui existe maintenant est différent de ce que c'était, mais le fait que ça continue, c'est quand même incroyable.
Et c'était à nouveau donc des considérations humanistes de la part de Signac. Il faut aussi peut-être situer ce mouvement néo-impressionniste qui s'est un petit peu distingué, qui s'est distingué de l'impressionnisme de par toute sa recherche, notamment de la couleur, mais aussi qui a été précurseur de plusieurs mouvements, hein, l'expressionnisme, le fauvisme, même le surréalisme.
Oui, c'est vrai. C'est très intéressant parce que Signac disait lui-même que s'il est devenu artiste, c'est grâce à Claude Monet. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de l'impressionnisme et non seulement au niveau de ce qu'il voyait dans leur tableau, mais aussi par rapport à ce geste de créer des forums d'exposition en dehors du salon officiel.
Académique.
Oui, exactement, oui. Académique. Oui. Cela dit, Signac, comme je disais, il voulait créer un art qui serait beaucoup plus ancré dans les sciences, ancré dans la vie quotidienne des gens qui seraient engagés socialement beaucoup plus que
dans l'étude de la part de l'art. Hein?
Exactement, oui. Exactement. Non seulement son engagement social, mais aussi sa utilisation des théories optiques a beaucoup influencé des générations de l'avenir, et on voit à travers cette exposition...
Peut-être même l'art optique.
Non, mais oui, absolument, oui. L'art optique, absolument, parce oui. que les opticiens, ils voyaient beaucoup des mêmes, ils lisaient beaucoup les mêmes sources que Signac, Rude, Chevreuil, etc. Évidemment, ils regardaient les néo-impressionnistes, c'est sûr, hein, mais je dirais qu'à travers cette exposition, on voit le nombre de mouvements extrêmement importants qui ont été exposés au Salon des Indépendants, que ce soit le fauvisme, l'expressionnisme à
l'Inabi, hein, cette magnifique section consacrée au Nabi.
Les symbolistes, les cubistes, en fait, presque, c'était vraiment le Salon des Indépendants.
Même Picasso, hein.
Oui, alors. Et Picasso. Picasso, je dirais.
Tardivement.
Picasso n'a pas exposé au Salon des Indépendants. Cela dit, évidemment, il était au courant du développement du cubisme qui était exposé au Salon des Indépendants avec notamment le travail de Georges Braque qui est représenté ici dans les salles. Donc, on voulait inclure Picasso aussi, étant aussi quelqu'un qui est venu de l'extérieur de la France à la France, justement, à cause de l'effloraison de scènes artistiques en France pendant cette période. Mais le Salon des Indépendants, comme on voit ici, était vraiment au carrefour de tous les grands mouvements de l'art, de l'histoire de l'art, au tournant du XXe siècle.
un salon absolument rassembleur, hein, et de là toute la pertinence de cette exposition-là, hein, qui vraiment, avant qu'on parle du collectionneur, parce que ça aussi c'est d'importance, oui. Tout ce rassemblement d'œuvres d'art grâce à un collectionneur en particulier, en fait un seul collectionneur qui a prêté toutes ses œuvres, c'est magnifique. Mais avant, peut-être qu'on pourrait parler du parcours proposé au public. Parce qu'écoutez, c'est un parcours dans l'histoire de l'art absolument fascinant et pertinent.
Bon, mais merci de le dire. Comme je disais ce matin, on avait toute une challenge, c'était toute une aventure de vraiment créer une histoire cohérente.
De créer des liens entre les différents artistes. Et ça, c'est d'importance, hein, pour vous de créer. C'est d'importance aussi pour le mystérieux collectionneur de créer des liens.
Oui, absolument. Et on s'est dit que bon, on a cette chance inouïe d'avoir toutes ces œuvres. Mais qu'est-ce qui serait
au nombre de 500, soit dit en passant.
500 en passant. My God, c'était un gros job, je dois dire.
Vous avez accroché 300 œuvres à peu près sur 500. Félicitations.
Non, c'était vraiment. J'ai beaucoup aimé ça, c'était super. Mais on s'est dit qu'au cœur de notre exposition est cette idée de montrer le développement de ce mouvement démocratique en art avec des liens qui sont très pertinents avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire des
confrontations. On peut faire des liens.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de confrontations au système gouvernemental, social, même s'il y a beaucoup de, il y avait beaucoup de développement technologique, scientifique, etc. pendant la Belle Époque, il y avait aussi beaucoup de gens qui souffraient beaucoup d'œuvres.
Le clinquant de la Belle Époque, il y avait des gens souffrant.
Oui, exact.
Des inégalités sociales.
Oui. Beaucoup d'inégalités sociales dont beaucoup d'œuvres en salle en témoignent. Donc, c'est vraiment, nous, on s'est dit qu'à travers Signac, le Salon des indépendants, on pourrait non seulement montrer des exemplaires extraordinaires de ces mouvements clés dans l'histoire de l'art, mais aussi raconter l'histoire du développement d'un mouvement artistique, à la fois artistique et social, qui était très important à l'époque où c'est développé, mais aussi très pertinent pour ce qu'on vit actuellement.
Et ça se termine justement même par les racines du mouvement surréaliste en compagnie de Odilon Redon.
Oui, c'est vrai. Odilon Redon était nommé par ses pairs un indépendant parmi les indépendants, tout à fait un inclassable dans son art.
Il y a eu les nabis, mais il y a aussi les nabis indépendants par la suite.
Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais lui, Odilon Redon était en fait parmi il a exposé aux premières expositions de Salon des indépendants, mais il a un style qui est complètement à lui unique, mais et qui a beaucoup influencé les surréalistes aussi. Et donc on voit, j'espère que les gens vont pouvoir entrer dans son univers, dans la salle dédiée à lui. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré par la musique. Donc vous avez vu, on a un parcours musical qui accompagne l'exposition qui a été développée par Marie-Claude Sénécal. Et l'idée étant de montrer comment la musique était importante pour ces artistes aussi.
Absolument. Alors écoutez, c'est une musique absolument inspirante qui nous accompagne de salle en salle. Et donc un survol dans l'histoire du néo-impressionnisme. Et ça nous démontre à quel point cette époque était foisonnante. Alors c'est une exposition ambitieuse qui fait un survol de tout ce foisonnement.
Oui, bon, mais merci de le dire, c'était ça notre espoir, comme je me répète, mais on voulait vraiment, c'était un geste de partage, honnêtement, de la part de le collectionneur, mais aussi de la part du musée, de vraiment vouloir présenter cette exposition qui est, Nathalie disait, la première exposition dédiée seulement à le néo-impressionnisme.
Et une première, une époque qui, pour la première fois, intègre les artistes femmes.
Oui, c'est ça.
C'est il faut le mentionner.
C'est sûr. C'est très important. You know, on a des œuvres sublimes de
Berthe Morisot, notamment.
Exactement. Et Eva González, qui étaient vraiment les pionnières en tant qu'artistes femmes pendant cette période. Je dois préciser que ni Eva González, qui est morte très jeune, ni Berthe Morisot ont exposé au Salon des Indépendants, mais ils côtoyaient tous ces gens. Et surtout, Berthe Morisot était parmi les premières à exposer avec les impressionnistes.
Elles ont inspiré nombre d'artistes néo-impressionnistes.
C'est sûr.
Les ont peints.
C'est sûr. Mais je dirais que ce n'était pas facile pour les femmes non plus. Par exemple, quand Berthe Morisot est morte, la nécrologie d'elle ne mentionnait pas qu'elle était artiste. Ça disait sans carrière. Donc c'est quelqu'un. Oui, c'est incroyable. Ouais. Et quand on regarde les critiques qui discutaient des artistes femmes, ça disait souvent peint avec toute la gentillesse et délicatesse d'une femme au foyer ou quelque chose comme ça. Ça a pris longtemps et ça.
Elle a fini par être intégrée à l'histoire de l'art, mais après. Tardivement, malheureusement, par rapport à son existence.
Oui, et tous les artistes femmes de cette période ont confronté les mêmes difficultés d'être discutées, critiquées dans les mêmes avec les mêmes termes, le même langage que leurs contemporains, les artistes hommes. Donc voilà, ce n'était pas facile, mais il y avait quand même des avancements et Berthe Morisot était une vraie pionnière.
Il faut exercer un devoir de mémoire dans le cadre de cette exposition. En terminant, cette exposition est non seulement une exposition, bien sûr, sur un pan d'importance de l'histoire de l'art, mais aussi sur l'histoire d'un collectionneur. Hein? Oui. Puis, vous nous présentiez brièvement ce collectionneur qui a fait preuve d'une grande générosité et qui a participé à plusieurs reprises à des précédentes expositions au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Oui, c'est une histoire qui s'est développée à travers le temps et une amitié qui s'est développée entre Nathalie et le collectionneur, et aussi avec Gilles Gentil, que je dois mentionner absolument, qui est le co-commissaire de l'exposition et qui était impliqué tout le long du processus jusqu'au point qu'il devait repartir en France. Aux causes de pandémie. Mais c'est une histoire d'amitié, de générosité, comme vous avez mentionné.
Et de passion extrême.
Comment?
Et de passion.
Oui, et de passion extrême.
De plusieurs générations dans la famille de ce collectionneur.
Oui, absolument. Ça a commencé avec le père du collectionneur et ensuite le collectionneur a continué. Ça continue avec sa famille, sa fille, son fils. Et c'est vraiment, on voit ici l'histoire d'une vie qui est absolument passionnée, incroyable, très très généreux et qui était aussi, on a eu beaucoup de plaisir à discuter de projets avec lui, vraiment quelqu'un qui étudiait l'art, qui aimait l'art, qui aimait les artistes.
Et qui veut transmettre l'art, absolument.
C'est ça, qui veut transmettre l'art, qui veut partager.
Et qui a même, on va terminer avec ça, acheté des œuvres complémentaires pendant le cadre de cette exposition. Alors,
c'est ça.
Merci énormément, Marie Délée Desmarais, de nous avoir présenté cette exposition de grand intérêt et qui nous permet de nous rétablir tout à fait de la période difficile qu'on vient de vivre. Merci, félicitations pour votre contribution et félicitations aussi au commissaire, co-commissaire Gilles Gentil. Merci. Au musée aussi.
Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu aujourd'hui et merci pour cette conversation.
Très agréable l'entretien. Merci.
Merci.